Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du Design Humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Introduction au design humain ». Nous allons découvrir ensemble les éléments essentiels du système du design humain. Donc, souvent dans les aliments, on voit ce mandala. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'informations dans ce mandala. Moi, c'est comme ça que je suis venue au design humain. D'ailleurs, c'est cette image qui m'a accrochée, qui m'a séduite et qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et dans les aliments, quand on fait des études, et même quand on reçoit une analyse, ce qu'on regarde, c'est l'intérieur du mandala, ce qu'on appelle le schéma corporel. Si vous vous penchez sur l'étude du design humain, vous verrez qu'il y a un langage très spécifique au design humain et c'est ce qu'on développe, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre dans, par exemple, le premier cours, le cours Vivre son design. On apprend dans le cours Vivre son design, on découvre les 9 centres et on commence le processus de déconditionnement des 9 centres. Dans le design humain, on parle de centre dans le design humain ou dans le human design. Il y a des gens qui disent human design, en fait, c'est la même chose. Eh bien, on parle de centre, on ne parle pas de chakra. Mais il y a une corrélation entre les deux, puisque nos ancêtres avaient 7 centres et que nous, on a évolué et sans doute on va continuer à évoluer. Et donc, peut-être, je dis toujours cette petite phrase que plus tard, nos futurs petits-enfants diront nos ancêtres aux 9 centres. C'est très possible. Dans le design, dans le schéma corporel, il y a aussi ce qu'on appelle des centres. Donc, je viens de nommer ces centres-là, de dire que c'est ce qu'on appelle un centre énergétique. Il y a deux, soit le centre est non défini ou blanc, ou alors un centre défini qui est coloré. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien si on a, par exemple, beaucoup de centres blancs, 7 centres non définis ou blancs dans son schéma corporel, et puis seulement 2 ou 3 qui sont définis, ou même si on a tous les centres non définis, c'est par exemple le réflecteur qui n'a pas du tout de définition. Donc, il n'y a pas un type ou une façon d'être qui est mieux que l'autre. L'important, c'est de comprendre ce qu'on est, de le découvrir, de le comprendre, de l'accepter et de le vivre bien. De ne pas essayer de dire « Ah, ce serait bien si j'avais moins de centres définis ou si j'avais plus de centres, moins de centres blancs. » Non, il n'y a pas de choses comme ça au sein du design humain. On est tous uniques et c'est ça la science de différenciation, c'est d'accepter cette unicité et puis de transcender la comparaison et le jugement, et de s'accepter tel que l'on est. Une autre chose qui est importante dans le design humain, c'est la présence des neutrinos. Qu'est-ce que c'est les neutrinos? Les neutrinos, on dit, c'est le souffle des étoiles, donc si on veut être poétique, mais en fait, c'est une particule très, très, très fine, invisible à l'œil nu, qui existe et dont la présence est devenue officielle il n'y a pas tellement longtemps, mais elle a été découverte au même moment que il y a eu l'explosion de la supernova SN 1987A. Donc c'est à peu près c'est en 1987. C'est une particule invisible mais qui contient beaucoup d'informations et qui traverse les étoiles, les planètes, et qui nous pénètre jusqu'au plus profond de notre ADN. Donc, elle contient une masse, ce neutrino contient une masse et nous pénètre jusqu'au fin fond de notre ADN et nous apporte des informations. Et la calculation, dans la calculation du design humain, ce message que portent les neutrinos est pris en considération. Et pour moi, c'est important de le mentionner parce qu'il n'y a que le design humain, à ma connaissance, qui prend en considération cette information. Donc, ce flux de neutrinos existe tout le temps, il ne s'arrête pas, même la nuit, il ne sait pas que la nuit ne va pas aller se coucher, il est tout le temps là, on est pénétré par les neutrinos tout le temps, même pendant qu'on dort, et le flux de neutrinos nous pénètre jusque dans notre ADN. Dans les animaux, on prend en considération deux calculations. La calculation de l'empreinte prénatale, c'est-à-dire ça correspond au sixième mois de la grossesse, donc c'est 3 mois avant la naissance. Pour nous, c'est le calcul du design, on dit, dans notre langage du design humain. Et puis, on prend aussi en considération l'empreinte natale qui est au moment de la naissance, quand le bébé sort du ventre de la maman, même si c'est une césarienne, c'est quand le bébé est sorti. Donc, dans le temps, on ne prenait pas exactement la minute près. Maintenant, on peut la prendre avec tous nos instruments. On peut regarder l'heure exacte. Et c'est important d'avoir l'heure le plus précis possible lorsqu'on veut connaître son schéma corporel. Bon, ça change pas exactement beaucoup à une minute près, mais dès qu'on dépasse les 5 minutes, les 10 minutes, ça peut changer des choses, surtout si on veut aller dans l'étude plus profonde d'un schéma corporel. Souvent, on me pose cette question, est-ce que le design humain, c'est comme l'astrologie? Je dis non, ma réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que dans le design humain, on juxtapose ces deux informations, ces deux dates de naissance, quelque part. C'est comme ça qu'on calcule un schéma corporel. Donc, à ma connaissance, en astrologie, on n'a qu'une date, on n'en a pas deux. Il y a aussi dans le design humain la corrélation entre les codons de l'ADN et puis le ray-reaching. C'est au niveau énergétique, bien sûr. Il y a 64 codons et 64 hexagrammes. Il y a aussi 6 groupes d'acides aminés par codon et qui correspondent donc à l'énergétique de chaque ligne de l'hexagramme. Comme il y en a 6, ça tombe à pic, on pourrait dire, pour que aussi ça nous permette d'avoir des informations très pointues au niveau de la personne et de notre schéma corporel. Si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, dans l'intérieur du mandala, il y a le schéma corporel avec les 9 centres. À l'intérieur des centres, il y a aussi ce qu'on appelle des portes. Ce sont des numéros qui correspondent à ce qu'on trouve à l'extérieur de la roue du mandala, qui sont les hexagrammes et qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Et plus... on trouve aussi au centre de ce mandala, les signes, les positions planétaires, les planètes, et donc, par exemple, Mercure, et on voit les portes qui correspondent à ces hexagrammes et qui auront une énergétique plutôt mercurienne ou neptunienne ou saturnienne, ou etc. On n'a pas besoin de connaître l'astrologie pour étudier le design humain. Moi, je ne connais absolument rien en astrologie, à part le nom des planètes. Bon, je connais mon signe, mon ascendant, mais je suis absolument ignorante en ce qui concerne l'astrologie. Quand on regarde un schéma corporel, on trouve 26 activations, 13 activations qui sont conscientes, donc c'est tous les chiffres qui correspondent aux chiffres noirs ici, du côté droit du schéma corporel. Et puis, il y a 13 activations inconscientes, donc c'est ce qui est rouge. Et puis, tout se traduit et se retrouve au centre. C'est pour ça que des fois, on appelle des portes ou des canaux, un canal à moitié rouge, à moitié noir, ou quelquefois tout rouge ou tout noir. Et encore une fois, on découvre ça, par exemple, dans le cours ABC. Les animaux, on parle du non-soi. Qu'est-ce que c'est le non-soi? On dit souvent, le non-soi. Le non-soi, se trouve surtout dans le design humain, pas que, mais surtout dans les centres qui sont non définis. Les centres blancs sont vulnérables au conditionnement qui vient de l'extérieur, donc à l'homogénéisation. Bon, ça commence en général dans les familles, mais c'est aussi les médias, mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de conditionnements qui viennent par l'éducation, par les par les réseaux sociaux, par la vie en général, hein. Et la difficulté pour la plupart des gens, et ça commence à l'enfance, c'est de connaître qui on est vraiment soi-même, hein, et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et le non-soi, c'est quand on est tombé dans les pièges de ce conditionnement. Et quelque part, on ne sait plus qui on est. Donc, on passe tous par ça. C'est souvent la crise de l'adolescence, on voit ça. Mais ça peut perdurer, bien sûr, si on ne fait pas un petit peu un travail de personnel, de découverte de soi-même. Et des animas, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire pour se découvrir. Il y a 4 types dans les animas. On parle de types. Donc, parmi nous, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit que... Il y a une personne, je crois, qui a dit qu'elle était manifesteur, si je me souviens bien. Donc, on a 10%. Les manifesteurs sont... En fait, 8%, excusez-moi. On voit que la majorité de la population, c'est les générateurs, ou ce qui englobe les générateurs manifesteurs et le générateur pur. C'est 70% de la population qui sont générateurs. Et puis le projecteur, 21%, c'est ce qui est en vert. Et puis on a le réflecteur. Comment vous voyez, le réflecteur, on peut le reconnaître parce qu'il a tous les centres qui sont blancs dans son schéma corporel et ça représente des millions de gens puisque c'est 1% de la population. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 70% de générateurs? Ça veut dire que les autres types, les 30% du reste de la population, ont sans doute été beaucoup conditionnés pendant leur enfance pour se conduire, hein, pour être comme des générateurs. Eh ben oui, puisque les générateurs sont la majorité. Donc une grande partie du processus de déconditionnement des 30% de la population, c'est de comprendre et d'accepter et de découvrir que vous n'êtes pas générateur. Pour les générateurs, en général, c'est de comprendre et d'accepter que vous n'êtes pas manifesteur. Bon, mais ça, voici un petit résumé de la stratégie. À chaque type, on a une stratégie. Pour le manifesteur, c'est informer avant d'agir. Sa signature, c'est la paix. S'il n'écoute pas sa stratégie, il aura tendance à être énervé ou en colère. Et puis, il peut avoir de l'impact, le manifesteur, lorsqu'il est correct. Le générateur, et je vais mettre le générateur manifesteur ensemble, ils ont la même stratégie. C'est d'attendre avant de répondre, hein, de ne pas se précipiter sans avoir vérifié la réponse du sacral. Ça se passe très vite, ça peut aller très rapide, mais le sacral est la source de la réponse pour le générateur et le générateur manifesteur. Si le générateur écoute le sacral, eh bien, il va avoir beaucoup de satisfaction. Aussi bien le générateur manifesteur que la signature des générateurs, c'est la satisfaction. S'ils oublient de répondre, eh bien, ils vont rencontrer beaucoup de résistance et ils vont avoir beaucoup de frustration et même être énervés, voire en colère. Les générateurs ont besoin de savoir qui ils sont. D'où, encore une fois, l'outil du design humain est parfait, est excellent pour les générateurs qui ont besoin de savoir qui ils sont. Le projecteur, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre d'être invité pour les grandes choses de la vie, en général une invitation officielle. Et s'ils oublient cette chose-là, le projecteur, eh bien, il va rencontrer de la résistance. Si par exemple il court après les autres en disant allez, c'est moi qui t'invite, non, ça ne marche pas, eh bien il va être amer au lieu d'avoir beaucoup d'efficacité et de réussite. Lorsque le projecteur attend l'invitation, eh bien finalement il attend la personne qui va le reconnaître, et lorsqu'il est reconnu, le projecteur peut briller, et lorsqu'il brille, il a le potentiel de devenir très efficace et de réussir tout ce qu'il entreprend. Maintenant, le réflecteur, il a besoin, lui, sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire à partir du moment où il a une décision à prendre. Sa signature, c'est la surprise. Il attend d'être surpris et il peut rencontrer la déception, surtout s'il ne connaît pas comment il fonctionne, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de s'entourer de gens qui lui sont favorables, d'être dans des lieux qui lui plaisent, pour pouvoir. Donc, tout est une question d'évaluation de l'environnement pour lui. Et quand il est dans le bon endroit, il va pouvoir être lui-même. Donc, voilà, par exemple, j'ai mis un schéma ici de un manifesteur, Johnny Depp, qui a bien sûr les caractéristiques d'un manifesteur, puisque le centre sacral est non défini et que la gorge est accrochée et connectée à un moteur. On dirait manifesteur émotionnel, et le conseil que je donnerais à Johnny Depp, c'est d'informer avant d'agir. D'informer avant d'agir et d'attendre d'avoir la clarté avant même de prendre une décision qui risque d'impacter les autres. Et là, vous aurez la paix, puisque Johnny Depp, vous recherchez la paix. Ici, on a Edith Piaf, qui est un générateur manifesteur. Générateur manifesteur, pourquoi? Parce que la gorge est reliée directement, d'ailleurs ici, et indirectement à un moteur. Donc, on a un générateur manifesteur. Donc, le conseil que je donnerais à Edith Piaf ici, c'est... ralentissez avant d'agir, n'allez pas trop vite, attendez bien d'avoir la réponse de votre sacral. Et comme vous êtes émotionnel, eh bien, vous avez aussi besoin d'attendre la clarté qui peut prendre 3 jours, 3 nuits pour une très grande décision et au moins une nuit. Ainsi, c'est une décision un peu plus rapide et vous allez rencontrer beaucoup de résistance et être frustré si vous oubliez de suivre ces conseils. Et puis ici, un autre générateur, manifesteur, Charles Aznavour, aussi émotionnel, et qui a une connexion directe du sacral à la gorge. Ce serait le même conseil que j'ai donné à Edith, ralentissez. Vous pouvez aller vite, vous pouvez passer l'action une fois que vous avez répondu avec votre sacral. Et comme vous êtes émotionnel aussi, vous avez besoin de prendre le temps d'avoir la clarté qui peut prendre minimum une nuit, voire 3 jours, 3 nuits en général, ou même plus. Ça dépend de la décision à prendre. Donc, la satisfaction, c'est votre signature et ce sera plus facile si vous n'oubliez pas de répondre avec votre sacral. Et puis, voici un projecteur célèbre, Monsieur Pablo Picasso, qui a... Pablo Picasso... Votre stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Et une fois que vous êtes invité, vous pouvez discuter de la décision à prendre avec votre entourage. Et c'est en écoutant la résonance de votre propre voix pendant que vous discutez avec quelqu'un à qui vous faites confiance. Ça n'a pas besoin d'être 36 000 personnes, au moins une personne de confiance. Eh bien, vous allez pouvoir trouver la marche à suivre, c'est-à-dire la décision à prendre. Voilà, et c'est l'efficacité. C'est très efficace si vous suivez ce conseil et vous éviterez beaucoup d'amertume. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir, de poser vos questions et puis on va faire de notre mieux pour y répondre.
Oui, alors moi j'ai souvent cette question, comme tu peux imaginer dans le cours Vivre sans design, sur justement la différence finalement entre répondre et initier. Et la première réaction quand on explique attendre pour répondre, c'est vrai qu'au niveau du mental, ça bloque un peu. on a souvent l'impression que c'est ne rien faire, rester dans son canapé. Donc voilà, si cette question t'inspire, je serais curieuse d'avoir ta vision, ta perspective là-dessus pour essayer d'aider le plus grand nombre de personnes.
C'est une bonne question, c'est vrai qu'il revient souvent. Par exemple, si on parle à Edith, elle lui dit, Edith, elle pourrait très bien poser cette question, elle dit oui, mais moi, je n'ai pas envie d'attendre, qu'est-ce que ça veut dire attendre? La difficulté, c'est que si vous passez à l'action, vous allez rencontrer de la résistance. Et ça, quelque part, vous le savez. Et moi, je dis toujours à quelqu'un qui fonce la tête en première, et je suis bien placée pour le savoir, mon schéma ressemble beaucoup à celui de Charles Aznavour. Donc, avant le design humain, je fonçais. Hein, j'ai dit ça, c'est ma façon de l'exprimer, la tête la première, parce que c'était des décisions. Je prenais que des décisions mentales. Donc, je m'en foutais complètement de répondre. Je connaissais même pas la présence de mon sacral. Ça faisait longtemps que j'étais déconnectée de mon sacral. Donc, je rencontrais beaucoup, beaucoup de résistance. Donc, je vivais beaucoup dans la frustration et l'énervement. Donc, la chose que je dirais à ces gens-là qui ont du mal à comprendre ça, c'est posez-vous cette question. Est-ce que vous avez de la satisfaction pendant la journée? Vous pouvez faire un bilan en fin de journée. Est-ce que vous avez été plutôt frustré aujourd'hui ou pas? Sans doute, si vous ne répondez pas avec votre sacral, et que vous n'attendez pas la réponse de votre sacral, vous allez avoir vécu des moments très frustrants dans votre journée. Par exemple, le cas classique que je prends souvent comme exemple, parce que ça m'est arrivé, c'est de penser à un truc. J'y pense tellement, je suis tellement dans ma tête, je suis totalement dans mon mental. Bon, je ne le fais plus maintenant, mais ça m'arrivait souvent. Avant, je sortais de la maison en claquant la porte et j'avais oublié à l'intérieur mon portable, mes clés, mon portefeuille, enfin mon sac à main, donc il y avait tout dedans. Et c'est compliqué quand on est dehors, qu'on n'a pas le portable. Comment on fait pour rentrer? Ou dans la voiture, la même chose, on sort de la voiture parce qu'on est tellement en train de penser au meeting qu'on va aller, ou la personne qu'on va aller rejoindre. On n'est plus dans le corps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on ne répond pas et qu'on est un générateur? Ça veut dire qu'on n'est plus dans notre corps, qu'on est déconnecté de notre corps, on est dans le mental. C'est ça ce qu'on veut dire quand on est dans le mental. Et qu'est-ce que ça demande de se recentrer dans son corps? Et le sacral, pour le générateur, c'est les tripes, c'est le ventre, c'est viscéral. Les enfants générateurs font des sons, des petits sons de satisfaction, des petits sons de frustration, des sons pour dire non toute la journée. Ce qui est malheureux, c'est que quand on grandit, on se déconnecte. Donc, posez-vous des questions fermées. Aussi, c'est l'histoire de la question fermée. Hein. Et beaucoup, beaucoup, je le dis souvent, alors ça, on a même eu des discussions là-dessus, que même nous, quand on connaît le design humain, on a, même vous, les projecteurs, vous avez du mal à poser des questions fermées. Et quand vous posez des questions fermées, ça aide le générateur. Si on demande à Charles Aznavour, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire là, maintenant? Imaginons qu'on soit assis à un café, une terrasse de café. Qu'est-ce que tu veux boire? Il sait pas. Il va dire, je sais pas. Le sacral ne peut pas répondre. Mais si on lui dit, est-ce que tu veux une tasse de café? Il va te dire, est-ce que tu veux un verre de vin? Peu importe. Mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec Sandrine et Sandrine m'a posé une question. Sandrine, je le dis, c'est vrai, c'était marrant. Comme elle me pose une question, mais elle me pose une question en me disant « Est-ce que tu veux faire ça ou ça ou ça ou ça ou ça ?» Bon, j'exagère un petit peu. Il y avait au moins trois choses et je ne pouvais pas répondre. Le sacral, il peut répondre qu'à une chose à la fois. Donc, ne lui donnez pas un choix au générateur. Si vous dites, est-ce que tu veux manger, je sais pas, ou est-ce que je reprends mon truc à boire, ça va mieux. Est-ce que tu veux boire un café ou est-ce que tu veux boire un thé? Non. C'est compliqué pour le sacral. C'est de la mécanique. C'est très mécanique. Donc, il n'y a pas d'intelligence dans le sacral. Il n'y a que de la mécanique. Et c'est un moteur qui peut répondre qu'à un truc à la fois. Suffit de lui poser une question fermée. Donc, revenir à la question fermée, toute simple. Voilà alors ma réponse. Ça passe par la pratique. Et finalement, quand on a une vie de frustration, on essaye de trouver une autre solution. Elvira, oui?
Oui, bonsoir. Cette semaine, on a un peu rigolé parce qu'on était trois générateurs. Enfin, moi, je suis générateur manifesteur. On avait envie de monter un projet, organiser des stages, des rencontres. Et ça m'a fait un peu ricaner parce que je me suis dit à quel moment on se retrouve à répondre. Est-ce qu'on va se retrouver face à de la résistance? Ou est-ce que comment on fait dans ce cas-là? Parce que si on doit attendre, alors que ce soit des signes, des invitations, que ce soit sur le chemin, mais c'est vrai que moi j'ai toujours agi comme un manifesteur et je me rends bien compte que j'ai rencontré beaucoup de résistance. Mais ouais, je rejoins un peu la question de Laure. Comment on fait du coup quand on a des velléités de monter des projets? C'est qu'est-ce qui se passe?
Alors, ben vous, déjà, cette envie de faire un projet, c'est une réponse à quelque chose. Vous répondez à quelque chose qui est à une idée, ça peut être répondre à une idée, à une envie. Donc, la première chose, je dirais par exemple à Elvira, c'est de vous poser vous-même la question entre vous, si vous êtes plusieurs, au moins à deux, c'est plus facile, une personne à la fois. Pour simplifier la marche à suivre, ce serait, est-ce que je poserais Elvira, est-ce que tu as envie de faire un stage de, non, je vais dire n'importe quoi, hein, un stage de yoga? J'attends la réponse. Comme je ne vous connais pas, je peux pas, je suis obligée d'inventer. Donc, ce ne sera pas un stage sur le yoga. Hein, est-ce que tu veux faire un stage de danse? Imaginons que votre sacral dit Voilà, une question à la fois. Donc déjà, répondez à ça, puisque c'est une envie, vous répondez à l'envie. Et vous allez comme ça aller jusqu'au bout. Est-ce que j'ai envie, est-ce que tu as envie que ce soit à l'intérieur? Non. Bon, est-ce que tu as envie que ce soit à l'extérieur? Oui, ok. Donc, est-ce que tu as envie que ce soit l'été? Ben oui, ça sera plutôt l'été, parce que s'il pleut, ça va être difficile. Tu vois comment j'avance une chose à la fois.
Ok, c'est répondre à l'envie aussi, alors c'est bien.
Ouais.
Merci.
Par exemple, deux amoureux. Il y en a un qui a envie de faire l'amour. Bon, il va demander, ça marche bien s'il y a deux générateurs, c'est autre chose si on a un générateur et un projecteur, c'est autre chose, ou deux projecteurs. Mais prenons l'exemple de faire l'amour et qu'on a deux générateurs. Et bien, il y en a un, c'est celui qui a le plus envie finalement, qui va dire, est-ce que tu as envie de faire l'amour? Bon, si le partenaire dit, ben c'est bon, peut-être. Moi, ce que je conseille toujours, c'est quand même de vérifier avec l'autre, pas que pour l'amour, pour tout. Et toi aussi, tu as envie? Et ben voilà, c'est parti. Vous comprenez? C'est assez simple finalement. On répond à la vie. À la vie, mais la vie, c'est pas le mental. C'est ça la grosse nuance finalement. Oui, Philippe?
Oui, merci. Moi, Josette, c'est plus global ma question. Parce que je partage ma découverte et mon apprentissage du design humain là, depuis un an autour de moi. Et j'ai souvent cette question. Est-ce que c'est un modèle figé dans le temps? Est-ce que ça, finalement, on est avec le même design et on meurt avec le même design? Alors moi, là où j'en suis de ma compréhension de tout ce que j'ai compris au travers de cet apprentissage à l'École France, c'est que j'ai compris que c'était un potentiel en fait pour déjà de connaître son mandala et sa charte et ses centres et ses canaux pour finalement appréhender son vrai soi, et c'est déjà un grand terrain d'expérimentation. D'ailleurs, vous nous faites travailler et je vous dois un papier sur les vulnérabilités et les risques de mon design. Et du coup, pour moi, c'est déjà un grand terrain de jeu pour soi. J'explique aussi en me disant que sans doute, ça a des interactions de notre design avec les autres au quotidien par rapport aux définitions et puis peut-être par rapport à certaines aptitudes où on l'a déjà évoqué ensemble, des dons qui peuvent un peu ressentir, être ressentis ou transparaître chez l'autre. Voilà. Et je voulais savoir, voilà, avoir votre point de vue sur cette question-là, en fait, pour que je puisse bien m'expliquer avec les bons mots, en fait. Est-ce que le mandala, il est figé une bonne fois pour toutes, et comment expliquer ça?
Alors, il y a beaucoup de mots qui me chatouillent les oreilles, Philippe. Le mot figé, hein, je sais pas. Bon, je vois ce que vous voulez dire. Déjà, c'est un schéma corporel. Votre schéma corporel, c'est pas le même que celui d'Edith Piaf. Celui d'Edith Piaf, c'est pas le même que Charles Aznavour, et c'est celui de Charles Aznavour, c'est pas le même que. Donc, ce que vous pouvez dire, si vous avez, et moi, de toute façon, il y a que quand on est certifié guide qu'on a le, l'autorisation normalement, hein, mais je sais bien que ce n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui, hein, puisque tout le monde partage ce qu'il croit avoir compris publiquement. Mais dans, si vous suivez la formation correctement, quand vous êtes guide certifié ou analyste, vous pouvez parler publiquement du design humain. Mais si vous parlez avec vos amis, je comprends la question, eh bien, le mot-clé, c'est le mot « différenciation ». Le design humain, c'est la science de la différenciation. Donc, ça vous aide à comprendre votre unicité. Et votre unicité, elle n'est absolument pas figée. Vous, Philippe, vous êtes unique. Il n'y a qu'un Philippe, il n'y a pas deux Philippe comme vous. Vous êtes le seul qui existe et qui existera jamais, qui est comme vous. Maintenant, est-ce que vous vous connaissez? Vous vous connaissez un petit peu, déjà mieux qu'il y a quelques mois. Et si vous connaissez, continuez vos études, vous allez, par exemple, si vous formez en étant analyste, quand vous prenez le cours d'analyste, on va regarder toutes vos portes et toutes vos lignes de votre propre schéma corporel. Donc, vous allez vous connaître encore plus. Maintenant, si vous continuez vos études dans le design humain et que vous suivez un cours de différenciation pour devenir analyste holistique, vous allez aller encore plus profondément dans la découverte de vous-même. Et vous allez découvrir des choses que vous n'allez même pas pouvoir encore imaginer. Et cette découverte de soi et le processus de déconditionnement, il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est le but, quelque part, de se pencher sur son schéma corporel? Je peux parler de ce que c'est pour moi. C'est de prendre conscience, hein, de prendre conscience, d'avoir de plus en plus de conscience et de ne plus se servir du mental pour prendre ses décisions. Donc, le jour où vous arrivez à ne plus prendre aucune décision mentale, alors là, vous avez atteint un niveau de conscience, je veux dire, supérieur à la moyenne des gens. Est-ce que ça, c'est facile? Non. Est-ce que ça se passe en 5 minutes, même en 6 mois, même en 7 ans? Non. C'est le processus d'une vie. Et c'est ça le but. C'est d'arrêter de prendre des décisions mentales et de se servir de son mental comme un outil qu'on appelle, nous, l'autorité extérieure au service des autres. Donc, ça, c'est un point de vue. Je pourrais partir en disant, ben, si vous parlez à un générateur, demandez-lui ce que j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que ta vie, elle est pleine de satisfaction? Est-ce que tu rencontres encore de la frustration? Vous voyez, ma réponse, elle va dans cette direction. Si tu es à 100% satisfait, Philippe, toutes les minutes de ta vie et de ta journée, jour après jour, ben, tu as atteint un certain niveau de conscience déjà. Oui, il y avait une question d'un réflecteur, je crois.
Oui, c'est ça. Il y a une question d'un réflecteur et du manifesteur. Alors, je vais commencer par, je crois que c'est Arthur, qui est réflecteur 5.1, qui dit « Je me sens assez influençable en fonction de l'environnement et de l'humain. Comment puis-je rester moi-même et alignée? Je rencontre aussi actuellement des difficultés avec ma fille, qui est générateur, fils 2. Merci d'avant. »
Donc, merci beaucoup pour cette de participer. Et c'est dommage, j'ai pas de réflecteur en image, donc je suis désolée pour ça. J'avoue que c'est dommage. Donc déjà, je dis bien, si vous êtes réflecteur, vous avez tous vos centres blancs. Donc c'est vrai que vous êtes très influençable. On dit que le réflecteur, il a besoin d'attendre d'un cycle lunaire. Donc vous êtes influençable par l'environnement, par donc la clé pour vous, c'est d'être dans un environnement qui vous convient. Donc, vous avez les moyens, Arthur, d'évaluer l'environnement dans lequel vous évoluez. Faites confiance à ce ressenti que vous avez, et quand vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas faire de bonnes rencontres. Déjà, c'est pour vous, votre centre G, il est très important. C'est-à-dire, comme il est non défini, pour vous, tout est une question d'être au bon endroit. Si vous êtes au bon endroit, eh bien, vous allez rencontrer les gens qui vous conviennent. Donc, dans un premier temps, assurez-vous que vous aimez bien l'endroit où vous vivez. Est-ce que la maison vous convient? Est-ce que le quartier vous convient? Est-ce que la ville vous convient? Est-ce que le pays vous convient? Ensuite, quand vous sortez, allez dans les endroits que vous aimez. Et là, vous allez rencontrer des gens petit à petit qui vous conviennent. Ça, c'est la première chose. Ne vous forcez pas à aller dans des endroits que vous n'aimez pas. Et n'allez pas dans des endroits que vous n'aimez pas parce que quelqu'un qui vous le demande. Je veux dire, ça, c'est à vous de mettre ça en place déjà dans un premier temps. Et les choses vont... vous avez le don de pouvoir évoluer les lieux, les groupes. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Et puis, trouvez un ami ou quelqu'un de confiance aussi avec lequel vous pouvez discuter. Et ça peut même être au téléphone, avec lequel vous pouvez discuter de votre décision à prendre, si vous avez une grande décision à prendre. Et puis, vous allez écouter au fur et à mesure votre propre voix qui va commencer à... Ben, ça va, c'est vos oreilles, en fait, qui vont l'entendre, la bonne marche à suivre. Voilà, j'espère que ça vous aide. Et le conseil, c'est aussi de vous rapprocher d'un analyste pour recevoir une analyse. Ça va beaucoup vous éclairer. Hein. Voilà. Et puis, il y avait une autre question, là.
Oui, alors une question cette fois-ci donc de Séverine, hein, qui est manifesteur et qui a tendance à croire qu'elle doit faire toute seule, ayant du mal à assumer le rôle de leader. Un conseil, demande-t-elle.
Alors, elle fait toute seule parce qu'elle a le mal, elle a quoi? Elle a...
Ayant du mal, alors elle croit qu'elle doit faire toute seule et elle a du mal à assumer le rôle de leader. Elle a de tendance leader. À croire pour autant qu'elle doit tout faire toute seule.
Ok. Je dis toujours ça quand même, c'est important. Lorsque je ne vois pas votre schéma, c'est difficile de répondre comme ça. Hein. Mais bon, malgré tout, on va regarder le schéma de Johnny Depp, puisqu'il est manifesteur. Manifesteur, écoutez-vous pour prendre vos décisions. Je ne sais pas si vous êtes émotionnel ou pas. Ce serait important pour vous de connaître votre autorité intérieure. C'est la plus importante pour vous. Parce que l'autorité intérieure, c'est le guide intérieur qu'on a tous et qui ne nous ment jamais. Oui, c'est...
Et l'autorité splénique.
Bon, eh bien, tout est une question d'intuition pour vous. Écoutez votre intuition, votre instinct. Donc, pour vous, tout est une question d'instinct. Et l'instinct, il parle... C'est une petite voix. C'est pas la voix du mental qui parle dans le moment présent. Et qui va vous dire non, fais pas ça. Oui, on y va. Non, fais pas ça. Non, j'ai pas envie de faire ça pour elle. Non, j'ai pas envie de tout faire toute seule. Non. Et puis vous pouvez informer en tant que manifesteur. Vous pouvez informer. Vous pouvez informer les autres en disant non, j'ai pas envie de tout faire toute seule. J'aimerais informer que vous avez besoin d'aide. Et vous pouvez poser une question. Le manifesteur peut poser une question au générateur en lui disant « Peux-tu venir m'aider ?» Je t'informe que je n'ai pas du tout envie de tout faire tout seul. J'ai pas envie de faire le ménage, les courses, la vaisselle et la cuisine. Non. Est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, voilà, j'ai pris un exemple un peu bateau, mais bon. Vous voyez, si vous attendez sans leur demander, ils ne viendront pas. Demandez. Les générateurs, ils ont beaucoup d'énergie, ils peuvent vous aider. Ils ont besoin d'être un peu canalisés. Ou vous pouvez inviter un projecteur. Lui, il va être super efficace, le projecteur. Vous l'invitez. Ah, je t'invite à m'aider. Je suis sûre que tu pourras m'aider parce que tu vas me conseiller. Le projecteur peut conseiller le manifesteur et le générateur. Mais il a besoin d'être invité. Le projecteur, il ne va pas se pointer chez nous en frappant à la porte ou en téléphonant en disant « Viens, je vais te donner des conseils ». Non, ce n'est pas correct pour lui puisqu'il a besoin d'attendre les invitations. Donc, on l'invite. Vous comprenez? Vous avez de la chance en tant que manifesteur. Vous pouvez initier. Enfin, je dis ça parce que nous tous, on se dit, tiens, ce serait, on croit que c'est mieux. Mais bon, en général, on a ce qu'on a, c'est pour une raison. Non, c'est bon.
Moi, j'ai une question que souvent on me pose quand deux projecteurs sont l'un avec l'autre. Qui doit faire l'invitation en premier? Voilà, c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois.
Ben, encore une fois, ce sont des questions qui sont difficiles parce que j'ai pas le schéma du projecteur. Si on a un projecteur émotionnel avec un projecteur splénique, bon, de toute façon, ils se reconnaissent tous les deux. Hein, c'est instinctif, c'est organique, ils se reconnaissent. Donc, ils se respectent automatiquement. Et ben, celui qui va être plus rapide, c'est le splénique. Il peut inviter l'émotionnel. Je t'invite à boire un verre. Ça te ferait plaisir. Dis-moi, je t'invite. L'émotionnel, il va peut-être dire, ben, écoute, j'ai besoin de dormir dessus. Je ne sais pas si je peux venir boire un verre maintenant. Ce serait mieux qu'on planifie ça pour un autre jour. Puisque l'émotionnel, il a besoin de temps pour y voir clair. Donc ici, entre un splénique et un émotionnel, c'est le splénique qui est plus rapide. Donc, la réponse à cette question, Isabelle, ce serait de, comme je viens de faire avec, j'ai oublié qui m'avait posé cette question, c'était une question que Laure avait nommée, à retourner vers votre autorité intérieure. C'est l'autorité intérieure qui va vous aider, hein, la plupart du temps, à y voir clair. Et d'ailleurs, c'est le rôle de notre autorité intérieure, n'est-ce pas? Merci de vos partages, de vos questions. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de visiter le site de desanimafrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vive son design. À bientôt.